Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Je l'ai lu dans La Croix, mais elle est assez connue outre-Atlantique. Jusqu'en 1976, Jerry Givens est employé du système pénitentiaire. Mais lorsque la peine de mort est réinstituée cette année-là, il se porte volontaire pour réaliser les exécutions. Pendant 17 ans, il a sous sa responsabilité directe toutes les mises à mort de l'État de Virginie. Il exécute 37 hommes avec la chaise électrique et 25 avec des injections létales. À la chaîne ABC, il déclare que s'il devait choisir pour lui, il préférerait la chaise électrique, car c'est une mort plus rapide. Sa famille et ses enfants ignorent tout de ses activités. De manière générale, il considère son travail comme celui d'un accompagnateur. En 1999, une sombre affaire d'achat de voiture le fait passer de l'autre côté. Il est accusé par un grand jury de détournement de fonds et de parjure. Il commence à douter du système. Sa foi chrétienne, de plus en plus affirmée, fait le reste. Petit à petit donc, Jerry Givens remet en cause la peine de mort, sa cruauté, son efficacité préventive, son caractère peu chrétien. Il entame un cycle de conférences sur l'abolition de la peine de mort. En novembre dernier, avec plusieurs anciens collègues, il tente d'empêcher une exécution dans le Missouri pour des raisons inattendues. La santé du condamné est fragile, l'exécution est risquée. Jerry Givens demande à ce que soit pris en compte l'impact de ce risque sur les bourreaux. S'il y a des complications, écrit-il à la Cour suprême, les bourreaux ne seront pas compétents pour lui venir en aide. Ils vont porter cette cicatrice en eux toute leur vie. Russell Bucklew, le condamné, sera pourtant exécuté un an plus tard, le 2 octobre, par injection létale. Jerry Givens, l'ancien bourreau, lui, continue à se battre contre la peine de mort. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de brusques revirements, de vie qui changent, pas aussi spectaculairement, certes, mais qui en disent long sur notre capacité à prendre en main notre existence. Elles sont racontées par Claudia Prolongeon.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, je m'appelle Jean-Sébastien Borde, j'ai 47 ans. Je suis médecin néphrologue à l'hôpital de Saintes. Donc néphrologue, c'est un spécialiste des maladies rénales. Et, en fait, j'ai été très malade à l'âge de 3 ans, avec des soins lourds, douloureux, qui m'ont marqué. Et dès que je suis sorti de l'hôpital, finalement, mon plus jeune âge, j'ai dit que je voulais être médecin. Alors j'avais été hospitalisé aux enfants malades et j'ai fait mes études à Necker enfants malades. La boucle a été bouclée. J'ai débuté mes études en 90 et j'ai été interne en 97. Lorsqu'on est interne, en fait, les conditions de vie sont difficiles. C'est-à-dire qu'on arrivait le vendredi matin et on repartait le lundi soir sans forcément possibilité de dormir. Donc ça fait plus de 80 heures d'affilée. Donc c'était des conditions très très difficiles de travail. Il n'y avait pas vraiment de manifestation de reconnaissance. Finalement, les seuls qui nous en apportaient, c'était les visiteurs médicaux. Le visiteur médical, c'est un employé du laboratoire qui est chargé de présenter les produits aux médecins. Et donc, il se crée un lien finalement assez proche avec ces gens-là. Et certains laboratoires ne parlaient pas aux internes. C'était par exemple les laboratoires qui produisaient les médicaments uniquement en transplantation, parce que il n'y avait pas de temps à perdre avec ça. Et puis, lorsque ils ont su que j'allais probablement être nommé, que j'étais dans les petits papiers, à ce moment-là, ils viennent vous voir. Et puis, ils vous invitent, ils m'ont invité aux États-Unis. C'est sûr, quand on a été, parce que j'ai grandi en banlieue parisienne, donc quand on a été banlieusard, avec des parents enseignants, donc on a très peu voyagé, eh bien, on part aux États-Unis, dans tous les pays européens, on voyage beaucoup. On était reçus dans des grands hôtels, dans des grands restaurants. Et en fait, plus vous progressiez dans la hiérarchie du petit leader d'opinion, si je puis dire, plus vous étiez, vous mangiez avec des gens importants du laboratoire. Ça, au départ, c'était le médecin régional, et puis après, le directeur scientifique, puis le directeur marketing, et puis le directeur national du laboratoire. Donc, et puis à chaque fois, on montait d'un cran dans le niveau du restaurant dans lequel on mangeait. Donc, c'est très, très valorisant. Et petit à petit, comme ça, on va se rapprocher jusqu'à ce qu'on vous demande de participer à des comités scientifiques. Vous êtes là pour donner un avis scientifique sur des études thérapeutiques. Mais des études qui tenaient pas la route. Clairement, c'était des études qui déjà avaient une fonction marketing, qui ne déboucheraient pas sur des résultats qui pourraient être publiés. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Et lorsque je faisais part de mes réticences par rapport au protocole, etc., bon, bah, on écoutait gentiment, mais rien n'était amendé sur le protocole. Les intervenants, c'est des pointures internationales. Donc à partir du moment où un professeur, une pointure internationale, donne son avis, bah, vous allez le croire. Le dernier congrès où j'ai été, c'était en fait un symposium à Prague, dans un grand hôtel de Prague avec des participants du monde entier. Donc le symposium, c'est une espèce de congrès, mais organisé uniquement par un laboratoire pharmaceutique qui va présenter essentiellement ses produits. Alors il peut y avoir des sessions plus génériques, mais qui est intégralement financé par un laboratoire. Et c'était fastueux, quoi. On a été reçus dans des restaurants vraiment très très chers. Et je suis revenu, c'était un week-end, je suis revenu le lundi au travail, et la visiteuse médicale est venue me voir, il m'a dit, m'a demandé comment ça s'était passé, bah, très bien. Et m'a proposé de participer à une réunion deux jours après, qui consistait en fait à manger dans un restaurant, un bon restaurant à La Rochelle, avec mes collègues de la région, pour discuter de notre pratique de prescription d'érythropoïétine. Le PO des cyclistes, c'est produit pour les insuffisants rénaux. Et ça, c'était rémunéré. Voilà, ça devait être de l'ordre de 300 euros. Donc je n'y ai pas été, parce que en plus je venais de revenir de week-end, je voulais passer du temps avec ma famille. Et là, la visiteuse médicale me dit, mais alors par contre, vendredi, je compte sur vous. Parce que j'organise un repas de service. Donc le repas de service, c'était avec les aides-soignantes, les infirmières du service et les médecins. Et là, donc en une semaine, il y avait le symposium, la réunion rémunérée dans le restaurant, plus le repas de service. Et là, bon, vraiment, j'ai eu un sentiment très, très inconfortable. Ce sentiment d'être manipulé, d'être un objet, finalement, de manipulation. Donc je suis rentré dans mon bureau, je me suis assis, je me souviens, plein de questionnements, chamboulé, et j'ai décidé là sur le champ de ne plus recevoir l'industrie pharmaceutique, de ne plus recevoir de visiteurs médicaux, de ne plus avoir aucun lien avec les visiteurs médicaux. Et je n'en ai plus jamais eu depuis lors. On sait inconsciemment qu'on est influencé d'une certaine manière, mais là, il y avait tellement d'argent mis sur la table en très peu de temps que le retour sur investissement, il était évident. Et derrière, j'ai recherché sur Internet des gens qui auraient eu le même parcours que moi, qui se seraient dit, bon là maintenant, il faut que j'arrête. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Formindep, qui était une association qui s'était créée quelques années auparavant et qui finalement luttait contre les conflits d'intérêts dans la formation initiale et la formation médicale continue en médecine. Donc là, ça m'a permis de retrouver un collectif déjà qui m'a soutenu dans ma démarche et qui m'a donné des pistes pour comprendre comment les laboratoires influaient sur mes pratiques. Quelle était la mécanique de cette influence? Et c'est pas simple parce que on a tous l'impression, tous les médecins ont l'impression de prodiguer les meilleurs soins sur la base des études scientifiques. Et pourtant, non, les laboratoires pharmaceutiques payent énormément d'argent pour influencer ces prescriptions. Et les laboratoires pharmaceutiques devraient être là pour offrir le meilleur service aux patients. ils vont développer des stratégies marketing pour faire prescrire des médicaments dans des indications, en masquant éventuellement leurs effets secondaires, comme c'est le cas pour le Mediator. Mais qui doit éviter ça? C'est les agences sanitaires. C'est la Haute Autorité de Santé, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, et elles le font pas. Elles le font pas, elles le font mal, parce que il y a des pressions extrêmement importantes des laboratoires pharmaceutiques, parce que les experts dans les agences sont souvent en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Donc il y a plein de mécanismes qui font que les agences sanitaires ne jouent pas leur rôle correctement. Et lorsque vous avez les laboratoires pharmaceutiques qui sont entre vous et le patient, eh bien vous prenez des mauvais comportements qui vont conduire à une surprescription, à laisser finalement le patient en arrière. C'est comme ça que, en tirant le fil, je me suis rapproché de la loi Kouchner de 2002, qui oblige le médecin à exposer les traitements possibles, les risques, les complications, etc., avec une information loyale. Et quand on fait ça, eh bien, l'abstention thérapeutique devient une possibilité offerte aux patients. C'est rarement le cas, sinon. De ce fait, je prescris beaucoup moins. Souvent, les internes que j'ai, ils vont avoir une réaction comme si j'étais un criminel. Je veux nuire au patient, j'arrête un traitement. Mais le patient a été informé, il a des douleurs musculaires liées à son traitement. Je lui informe des résultats des études, de combien il va réduire son risque cardiovasculaire. Eh bien, s'il décide d'arrêter le traitement pour plus avoir les douleurs musculaires, eh bien, très bien, c'est lui qui a décidé. J'ai pas changé de manière radicale, enfin, je suis toujours la même personne, donc je pense que je me trompais à l'époque, et donc je pense que les gens qui continuent à entretenir des liens avec l'industrie pharmaceutique se trompent, mais ça ne remet pas en cause leur probité, leur qualité de médecin, etc. L'influence des laboratoires, elle est suffisamment bien rodée, bien fine, pour qu'elle soit totalement inconsciente. C'est le principe de l'influence, c'est totalement inconscient, donc j'en veux pas aux gens qui ont des liens d'intérêt. Voilà, j'ai pas de regrets. Je suis content de m'en être rendu compte.
France Culture, les pieds sur terre.
Bon, je m'appelle Roman, j'ai 31 ans et je suis né à Nantes. J'ai grandi à Paris, dans une petite ville du 77 qui s'appelle Clessouilly. C'est pas très loin de Disneyland Paris. Ma mère travaillait à Air France et mon père dans une boîte de logistique. Ils étaient là tous les soirs, mais en gros, de 6h du matin à 20h, j'étais quasiment tout seul, quoi. Voilà. J'étais content qu'ils soient pas là, comme ça je pouvais sortir, faire ce que je voulais. Et un jour, dans la cour du collège, en 5e... j'ai vu un grand de 4e qui roulait un joint de cannabis. Et je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il accepterait bien de m'en faire fumer, quoi. Et il a accepté. J'ai pris son joint. Et là, j'ai aspiré très fort. Comme ça, très fort, très fort. Et là, j'ai craché mes poumons. J'ai couru au fond de la cour. Et l'effet du cannabis est redescendu. Et je suis rentré chez moi et mes parents n'ont rien remarqué. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le cannabis. Et puis là, on s'est mis à en acheter. On fumait souvent avec les copains, voilà. Et un jour, avec des amis, en fait, on s'ennuyait un peu le soir. Et on s'est dit, et si on cassait un mur, en fait, parce que ce mur, c'était un raccourci pour aller dans le centre-ville. À la base, c'était un grillage qui était ouvert. Et là, ils avaient construit un mur en plaque de plâtre, qui faisait une centaine de mètres de long. Et là, on a mis un coup de pied dedans, et finalement, ça s'est cassé. Et donc, ça nous a fait marrer. Donc, on s'est fait les 100 mètres du mur à coup de pied. Et 3 mois après, ils ont reconstruit ce fameux mur, mais cette fois, ils l'ont construit en béton armé. Donc, on s'est approché du mur un soir, et on s'est dit, ce serait bien qu'on refasse le raccourci quand même, parce que c'est vraiment pratique. Du coup, comme il était en béton armé, on a pris une pioche. Je me suis approché du mur et j'ai mis plusieurs coups dedans, sauf que j'ai fait un tout petit trou. Donc là, j'ai dit à mes potes, à ce rythme-là, on en a pour toute la nuit. Venez, on va chercher une deuxième pioche. Et sur le chemin du retour, donc en pleine nuit, eh ben, on est tombé sur une voiture de police qui nous a coursés, tout ça. Ils nous ont attrapés. On est allé au commissariat. C'est là que j'ai fait ma première garde à vue. Et nos parents mangeaient ce soir-là tous ensemble en plus. Et bah, ils ont, mes potes, je sais qu'ils se sont fait tarter, mais moi, non. Ouais, moi, ils étaient trop, un peu trop cool avec moi, mes parents. On est resté 10 heures en garde à vue. Et on a appris qu'on devait rembourser donc le mur qu'on avait totalement détruit 3 mois plus tôt. On devait rembourser donc 1 500 € chacun. Et comme j'avais pas d'argent, vu que j'avais 16 ans, c'est nos parents qui ont payé. Je me suis dit, ça serait bien que... Enfin, j'aimerais bien les rembourser, quoi. Parce que ça me gênait de les faire payer ma connerie. Donc, bah, je me suis dit, comment je peux faire pour gagner de l'argent? Et là, bah, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, bah, si je me mettais à vendre de la drogue, tout simplement. Parce que déjà que j'étais consommateur depuis 3 ans, bon, bah, voilà, je me suis lancé. Et j'ai tout simplement demandé à quelqu'un qui faisait ça, qui vendait lui-même. Je suis allé le voir et donc il m'a emmené dans les cités en scooter à Sevran-Bedotte. Et voilà, j'ai rencontré les trafiquants de là-bas. Après, j'ai demandé à mes copains s'ils voulaient bien que je leur vende. Et comme je faisais des prix intéressants, bah, ils ont tout de suite accepté. Et puis je leur ai dit, bah, dites-le à vos copains, voilà, dites-le à tout le monde. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu des centaines de clients différents. Au début, quand j'ai commencé à vendre, le premier, j'ai acheté un 40 €, je l'ai revendu 60 €, donc j'ai gagné 20 €. Et ensuite, je suis passé très rapidement à des 100 grammes, voire même des 200 grammes. Donc 200 grammes, ça coûtait 300 € à l'époque. Et je le revendais entre 400 et 450, 2 fois par semaine. Donc ça faisait, aller 300 € par semaine à l'aise, quoi, de bénéfices. Facile. À 16 ans. Et au bout de 6 mois, comme mon trafic était bien en place, là, c'était plutôt 1 500 € par mois, en fait. Et il y a eu... Ouais, ça a déjà arrivé que je gagne 5 000 € en un mois. En fait, parce que là, j'étais devenu distributeur, c'est-à-dire que j'avais des gens qui travaillaient pour moi et qui vendaient à ma place, et je gagnais 500 € en 48 heures. Du coup, l'argent que je gagnais en vendant du cannabis, bah, ça se dépensait super vite. J'ai acheté un scooter, je faisais des réparations, j'ai acheté des consoles de jeux, je m'achetais des grecs, enfin, j'avais plein de cigarettes tout le temps, je faisais vraiment n'importe quoi, j'étais jamais à court d'argent. Donc je me faisais courser par les flics et j'avoue que ça j'aimais bien parce que c'est un peu comme dans les films, on entend la sirène de police, toutes les émotions elles sont décuplées, on se met dans un état de survie, on a l'adrénaline, voilà, on doit se cacher, on doit réfléchir vite et tout, et ça j'avoue que j'aimais vraiment beaucoup, quoi. C'était vraiment quelque chose d'addictif. Mes parents donc se rendent compte vers l'âge de 16 ans, donc au bout de quelques mois où je commence à dealer, ils se rendent compte parce qu'ils trouvent dans ma chambre des énormes morceaux de cannabis qui ne laissaient pas de place au doute. Ma mère, elle a essayé de m'en parler, elle m'a demandé « mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui va pas ?» tout ça. Puis moi, en fait, j'étais dans mon mutisme total, donc je voulais pas leur parler, puis certainement pas de ça en plus. Comme je sortais la nuit, ils ont installé une alarme dans la maison. Mais ça m'a pas empêché, en fait, tout simplement, bah, de passer par la fenêtre du haut, de sauter de ma fenêtre. Il y avait eu quoi, 2-3 mètres, et je remontais grâce à une corde. Donc voilà, et ça, ils ont mis encore quelques mois à s'en rendre compte, pareil. Alors une fois qu'ils s'en sont rendus compte, ils m'ont enlevé ma porte de ma chambre. Et voilà, parce que là, dès que je bougeais un petit poil, bah, ça faisait du bruit. Et, donc ils essayaient de me surveiller le plus possible. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Mais c'était pas facile parce que moi j'étais vraiment incontrôlable. Du coup là je venais d'entamer donc ma première au lycée en économique et sociale. Sauf qu'au bout d'une ou deux semaines, voilà, j'ai commencé à sécher. Je sortais la nuit, je traînais avec des types louches, je vendais donc de la drogue et le lycée ça m'intéressait plus du tout, mais vraiment. Et j'y allais juste pour dormir en cours. À côté de ça, je vendais de plus en plus de drogue. Et j'ai continué donc la première ES comme ça. Et arrivé à la fin de l'année, bah, j'ai redoublé logiquement. Et l'année d'après, pareil. Du coup, au mois de janvier, donc à 17 ans et demi, je me suis totalement déscolarisé. J'ai dit à mes parents, vas-y, l'école, ça me saoule, j'y vais plus. Et donc, je restais à la maison à rien faire. Et à la fin de l'année scolaire, mon fournisseur m'a dit, j'arrête de vendre et tout ça. Il s'est pas justifié, il m'a pas expliqué. Et moi, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire comme lui, je vais arrêter parce que là, ça commence à être chaud. Je me faisais contrôler tous les jours par les flics et tout. Donc j'ai décidé voilà d'arrêter d'acheter des quantités de drogue astronomiques et de vendre. J'achetais juste pour ma consommation personnelle. Et finalement, au mois d'août, donc à 18 ans, j'entame une formation de BEP cuisine dans un palace parisien, Plaza Athénée. Et au bout de 2 semaines, donc en plein mois d'août, je reçois une convocation au commissariat. Donc j'y suis allé. Et là, on m'a annoncé tout de suite que j'étais pour être mis en garde à vue pour trafic de stupéfiants et que ça pourrait durer 4 jours, donc 96 heures. Donc l'enfer un peu a commencé, on m'a montré ma cellule, on m'a mis à poil, on m'a fouillé. Et ensuite, ils m'ont emmené chez mes parents pour une perquisition. Donc on est parti à 4 véhicules avec un chien, une quinzaine de policiers. On est arrivé chez mes parents, donc j'étais menotté. Et j'ai vu mes parents, ils avaient les yeux tout rouges, ils étaient pas bien du tout. Et moi, franchement, j'étais couvert de honte. Là, je me suis dit que j'avais franchement dépassé les bornes. Et oui, en plus de ça, oui, mon père, il avait trouvé des trucs dans le grenier que je cachais. Et il avait tout dans la poche pendant la perquisition parce que il y avait un chien et donc il faisait tout pour être à l'opposé du chien dans la maison pour pas que les flics trouvent, voilà. Donc ça, je l'ai su après parce que sur le coup, moi, je me disais « Tiens, c'est bizarre, il reste pas avec moi, ça, à mon avis, il m'en veut et tout ça », mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'il esquivait le chien de la police avec tous les trucs dans sa poche. Donc franchement, chapeau, quoi. Voilà, ils ont fouillé ma chambre, ils ont fouillé le jardin, ils ont fouillé partout, ils ont trouvé des plantes de cannabis, ils ont trouvé plein de trucs comme ça. Mais pas de grosses quantités de drogue et pas d'argent, vu que j'avais arrêté de vendre un ou deux mois plus tôt. Je pensais que moi j'allais être libéré, mais en fait non, ils m'ont dit « bon bah on va t'emmener au tribunal et tu vas aller en prison ». Et donc du coup, à la fin de la journée, donc j'ai été reçu par l'adjoint du procureur qui m'a dit « Bon, on va te laisser une petite chance, tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, mais par contre, dans un mois, tu reviens te faire juger. » Voilà. Donc j'étais content, je suis rentré. Donc j'ai continué le BEP cuisine et un mois après, je me suis fait juger et j'ai eu 3 mois de prison avec sursis. Voilà, donc je n'ai pas été condamné à de la prison ferme. Mais bon, voilà, ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, bon, je l'ai échappé belle. Allez, j'arrête toutes ces conneries. Et voilà, je me mets au travail sérieusement. Et voilà, j'ai passé 9 mois comme ça en BEP. Et un jour, donc au bout de 9 mois, j'ai eu un accident. Je faisais des chips avec une machine à découper le jambon. Et je me suis découpé tous les bouts des doigts. Là, je me suis dit... je vais avoir un arrêt de travail étant donné que j'étais blessé et en fait j'étais content. Et là donc j'ai réfléchi, je me suis dit bon finalement l'école c'est pas si mal. Ce serait bien si je pouvais y retourner pour faire une formation, je sais pas, voilà. Donc j'ai cherché un lycée et j'ai trouvé un lycée à Paris, le lycée Saint-Sulpice. C'est classe du soir, en gros c'est de 14h à 22h pour les 18-25 ans. Et donc j'ai commencé, je me suis inscrit en première scientifique, voilà, pour la 3e fois, donc. Enfin, j'étais en économique et sociale, mais ma 3e première. Et finalement, l'année s'est bien passée, j'étais premier de ma classe, et arrivé en terminale, au bout d'un mois, en fait, j'ai relâché, voilà. J'ai replongé dans mes travers de l'époque, c'est-à-dire que je me suis remis à fumer du matin au soir, je me suis remis à sortir la nuit, à me coucher à 4h, 5h du matin, à ne pas faire mes exercices, etc. Et là, j'ai totalement redécroché pour la 2e fois. Et en plus de ça, donc pendant l'année, il y a un ami à moi, il m'a fait découvrir donc la cocaïne. Donc j'ai essayé avec lui, je suis tombé dedans direct. Ensuite, un autre ami à moi qui buvait souvent de l'alcool, pareil, il m'a fait goûter, je suis tombé dedans direct. Donc là, je vous dis pas les notes, c'était des 2 de moyenne générale en maths, 2 en physique-chimie, 0 en philo, enfin c'était vraiment catastrophique. Et j'ai passé toute l'année comme ça. Et puis finalement, 3 semaines avant le bac, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est maintenant ou jamais. C'est soit tu fais quelque chose, tu tentes un truc, soit voilà, ce sera trop tard. J'ai révisé donc les 3 semaines à fond. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de consommer et tout ça. Et j'ai passé le bac. Et finalement, par miracle, je l'ai eu du premier coup avec 10,5 de moyenne. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc j'étais là avec mon bac, mais aucune étude supérieure en vue. Ensuite, dans la même année, donc ça, j'avais 21 ans, je me suis dit un soir, oh, et si je prenais du LSD pour voir. J'en ai pris à un ami, donc il m'en a donné. Et là, j'ai tapé un énorme bad trip. J'avais des hallucinations horribles. J'ai vraiment cru que j'allais rester perché comme ça et que j'allais finir à l'asile. Et en fait, cet épisode, je me suis dit, bon, bah là, ça y est, t'as touché le fond. Ressaisis-toi, quoi. Réfléchis 2 secondes, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux redevenir un dealer et aller 10 ans en prison et puis rien faire le reste de ta vie? Ou est-ce que tu veux faire 10 ans d'études, par exemple, et passer le reste de ta vie à profiter? Donc j'ai fait ce deuxième choix, cette fois je me suis inscrit donc en médecine. Au début j'avais des notes pourries, j'avais des 5 sur 20, 10 sur 20, c'était horrible, je me disais mais vraiment j'ai pas de chance. Donc j'ai bossé et petit à petit chaque semaine je voyais mon nom remonter dans le classement. Et au mois de mai j'ai donc passé les deuxièmes épreuves du concours. Et finalement je suis arrivé 306e alors qu'il n'y avait que 312 places et voilà j'ai réussi donc le concours de première année de médecine du premier coup. Aujourd'hui donc je commence l'internat de médecine générale début novembre. Donc je vais commencer la 7e année de médecine. Oui je pense que moi j'ai une prédisposition à être accro à tout type de substances. Et que ce sera un combat toute ma vie, je devrais faire attention, voilà, je devrais bien réfléchir toute ma vie à me dire il faut pas que tu reprennes, il faut pas que tu reprennes, mais c'est faisable. Donc je veux devenir addictologue parce que pour moi en fait, si je deviens addictologue, bah je boucle la boucle, hein, voilà, tout simplement.
Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou. Faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large.
C'était Changer sa vie, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Clémence Gross. Merci à Roman Sanchez qui a écrit un livre qui s'appelle Un parcours stupéfiant aux éditions Michel Lafond. Merci à Jean-Sébastien Borde et à l'association Formindep. Aurélie Marseille et Mélissa Foust sont les 2 attachés de production des Pieds sur Terre cette semaine. C'est formidable.
Pourquoi pas?